franceinter.fr.
Et les pannes de Galileo qui sont à la une de la science aujourd'hui, après un déploiement plusieurs fois retardé, le système de géolocalisation européen Galileo était donc enfin opérationnel depuis le mois de novembre. Deux mois plus tard, voici les premières pannes qui pointent le bout de leur nez. 9 horloges atomiques sur les 72 éléments clés du système sont défaillantes, selon l'Agence spatiale européenne. Et pour mieux comprendre l'importance de ces horloges, nous sommes en ligne avec le physicien suisse Gaetano Miletti. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes professeur à l'Université de Neuchâtel et vous avez participé à l'élaboration des horloges atomiques qui sont aujourd'hui dans l'espace. Avec nous en studio, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Gaetano Miletti, pour qu'on comprenne bien d'abord l'embarras de l'Agence spatiale européenne, expliquez-nous, pour commencer, le rôle de ces horloges atomiques dans le système de géolocalisation Galileo.
Alors pour le système de géolocalisation, il s'agit de mesurer précisément le temps que met une onde pour passer du satellite jusqu'à l'utilisateur, et puis toute erreur dans cette mesure de temps se traduit directement par une erreur de positionnement. Et pour garantir un positionnement au mètre près, il faut que l'erreur sur la mesure du temps soit inférieure à la nanoseconde. Mmh. Et pour cela, donc, seules les horloges atomiques sont capables de garantir une telle précision, puisqu'une horloge à quartz seule ne permettrait pas d'avoir une telle précision.
Alors, si on peut le résumer simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une horloge atomique aussi précise ?
Alors, dans une horloge atomique, la base de temps est fournie par un quartz, comme pour toutes les autres horloges, sauf que ce quartz est référencé à un atome. Il y a plusieurs types d'horloges atomiques. Il y a les horloges atomiques au rubidium, ça veut dire que c'est l'atome du rubidium qui va réguler le quartz. Les horloges à l'hydrogène, ben, ce sera un atome d'hydrogène, etc. Donc c'est un quartz qui est stabilisé grâce aux atomes.
Est-ce que la précision de la géolocalisation peut être affectée par les pannes qui ont été décrites par l'ESA hier, tout simplement ?
Alors, faut savoir qu'il y a 4 horloges sur chacun des satellites, justement parce que les pannes éventuelles étaient anticipées. Donc tant qu'il y a une horloge qui fonctionne, le système n'est pas remis en cause.
Il faut s'inquiéter, Philippe, quand même, de ces 9 horloges en panne sur 72.
Ce qui apparaît un peu étonnant, c'est que le système n'est pas très vieux. Les premiers satellites de test avaient été lancés en 2005, donc les suivants sont ultérieurs, et que ça fait déjà quand même un certain nombre de pannes. Donc il y a sans doute quelque chose à essayer de retester ou à revoir dans la conception, puisqu'il manque encore des satellites à lancer. Il y en a 18 en orbite actuellement. On devrait atteindre en 2020 24 satellites, à raison de 4 horloges par satellite. Ce qui est inquiétant, c'est un peu cette obsolescence qui a l'air un peu rapide,
oui,
on va dire.
Et pas programmé pour le coup.
Gaetano Miletti, l'ESA n'a pas encore communiqué les raisons précises des pannes, mais est-ce que le fait que les pannes concernent les deux types d'horloges, parce qu'il y a deux types d'horloges, vous l'avez dit, vous permet de faire un premier diagnostic pour nous ?
Bon, ça serait de la pure spéculation, hein, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans chacune de ces horloges, il y a une partie qu'on va dire physique, là où se trouvent les atomes, dans un cas rubidium, dans l'autre cas hydrogène, et une partie électronique. Alors le fait qu'il y ait des pannes sur les deux types d'horloges pourrait nous indiquer qu'il pourrait y avoir un composant commun aux deux parties électroniques qui serait tombé en panne. Mais là, c'est de la pure spéculation. Donc ces horloges, elles ont été testées au sol. Elles ont été testées, comme ça a été dit, dans les satellites préliminaires Jove-A et Jove-B, et aucune panne ne s'est manifestée. Donc est-ce qu'il y a eu une modification de composants électroniques entre deux ? De mon côté, je suis assez confiant sur le fait que la source a été ou sera très rapidement identifiée et pourra être corrigée sur les horloges qui vont être envoyées prochainement dans l'espace.
Ouais. Gaetano Miletti, vous, quand est-ce que personnellement vous avez eu vent des premiers dysfonctionnements sur les horloges ?
Moi j'en ai entendu parler à la fin de l'automne dernier, donc octobre, novembre, c'était quelque chose de connu.
Philippe, est-ce que c'est pas un problème si le 17 novembre dernier, les satellites sont partis avec ce problème, tout simplement ?
Alors, il y a peut-être, je ne sais pas. Effectivement, le lancement a eu lieu le 17 novembre. Je ne sais pas si les opérateurs et l'Agence spatiale européenne étaient au courant à ce moment-là. S'ils l'étaient, je ne sais pas s'il y a une décision qui a été prise. Et il est certain qu'à ce moment-là, quand les satellites sont en intégration sur le lanceur, prêts à être lancés, soit on lance, soit on ne lance pas, et ça veut dire qu'on reporte pour peut-être un an ou deux. Donc,
Gaetano Miletti, ça veut dire qu'on a pu envoyer ces horloges sachant qu'il y avait déjà des dysfonctionnements avant même le décollage ou pas?
Ça m'étonnerait beaucoup. Vous savez, c'est des développements qui prennent très longtemps. Moi-même, j'ai travaillé sur les premiers prototypes à terre et c'est un travail qui a été terminé il y a 20 ans. Et ensuite, il y a toute une phase d'industrialisation. Les modèles de vol sont livrés dans ce cas-ci des années à l'avance, avant le lancement. Donc, il aurait fallu connaître le problème des mois à l'avance pour vraiment après intégrer l'information, etc.
Ouais. Non, je vous pose la question parce que...
On ne prend pas l'horloge depuis le laboratoire et on l'amène dans la fusée dans la semaine.
Parce que vous disiez avoir été au courant des dysfonctionnements aux alentours du mois d'octobre. Et le décollage, donc on l'a dit, s'est effectué mi-novembre. Donc, les ingénieurs...
La date précise, moi j'avais entendu parler de un problème sur une horloge.
Ouais, d'accord.
Je n'avais pas entendu parler de 9 horloges comme maintenant.
D'accord.
Je doute fortement qu'en novembre, il y avait déjà 9 horloges qui fonctionnaient.
Est-ce qu'une fois que les horloges sont en orbite, il y a moyen d'intervenir sur leur fonctionnement, de les remettre en route d'une certaine manière?
Alors, c'est une réponse à laquelle je ne peux pas répondre. Il y a certaines composants qui manifestement ne peuvent pas être changés, hein, notamment dans la partie physique. Dans la partie électronique, s'il y a des parties programmées peut-être, je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à cette question.
Mais a priori, on est capable de faire de la réparation à distance quand même, non? Ou c'est très
dans
compliqué?
Dans une moindre mesure, oui. Mais là, je pensais plutôt aux horloges qui ne sont pas encore lancées.
Mmh.
N'est-ce pas? Je pense que je serais très surpris si le problème est fondamental au niveau de l'horloge qui ferait qu'on pourrait plus réparer les horloges qui sont déjà prêtes à être lancées. C'est dans ce sens-là que je disais.
Ouais.
Parce que un tel problème aurait été détecté bien plus tôt dans le développement.
Pour la réparation à distance, il n'y a pas de secret. Soit on a des systèmes redondants à bord, c'est-à-dire par exemple des circuits électriques qui sont doublés et à ce moment-là on switch, on élimine celui qui est défectueux, on passe sur l'autre, mais évidemment on ne peut pas intervenir, on ne peut pas envoyer d'astronautes. Donc, en fonction du problème, on réparera ou pas. Par contre, il va y avoir d'autres lancements. Et il y en a un qui est déjà programmé avant la fin de 2017. 4 satellites d'un coup à bord d'une fusée Ariane 5. Et là, il faut voir ce que l'ESA va décider. Est-ce qu'elle va décider de lancer quand même, sachant que, bon, il y a ces 9 pannes, mais il y a 72 horloges, 4 par satellite. Donc, tant qu'il y a une horloge qui fonctionne sur un satellite, il peut marcher. Donc, est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter? Est-ce que ça, c'est une décision qui appartient à l'ESA, qui la prendra prochainement? Et puis, en tout cas, il y aura sans doute, il y a 8 satellites qui sont encore en cours de construction ou à construire et sur lesquels il va falloir sans doute modifier quelque chose ou en tout cas faire d'autres tests.
Ouais. Gaetano Miletti, juste dernière question. Les Suisses, dont vous êtes, sont des champions toutes catégories pour les horloges, même atomiques, alors, ce que je vois.
Alors, il est vrai que les horloges atomiques pour Galileo et d'autres horloges atomiques spatiales ont été développées complètement ou partiellement par des équipes suisses.
Oui,
tout à fait.
Donc c'est amusant de le constater, en tout cas. Merci beaucoup pour vos précisions, Gaetano Miletti. Oui. Philippe Inarajos, à bientôt avec Ciel Espace. Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un test sanguin qui pourrait prédire la mortalité du virus Ebola chez les patients. C'est ce qu'a annoncé ce matin une équipe de scientifiques des universités de Liverpool et de Boston. Après avoir analysé des échantillons sanguins des victimes, les chercheurs ont identifié des gènes dont l'expression prédit les risques de mourir d'un patient lorsque son corps contient une quantité moyenne de virus, une grande quantité étant généralement fatale. Cette découverte devrait permettre un étalonnage rapide de l'infection en cas de prochaine épidémie. Les primates en danger, une équipe de 31 primatologues du monde entier a établi un bilan des populations des primates non humains et leurs conclusions sont mauvaises. Selon eux, sur les 504 espèces de nos plus proches cousins, 75% des populations sont en déclin, 55% menacées d'extinction. Bien évidemment, nous sommes les principaux responsables de cette situation. Les trois causes de cet état de fait étant la destruction de leur habitat par les activités humaines, le braconnage et la transmission de maladies de l'homme vers les anthropoïdes. Et puis connaissez-vous le néopalpate Donald Trumpy? Eh bien, au début du mois, on vous rapportait qu'une dizaine d'espèces avaient été nommées d'après Barack Obama. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de Donald Trump. En effet, un biologiste canadien a découvert une espèce inconnue de papillon dans le désert californien et l'a dénommée d'après le président des États-Unis. Ce chercheur explique qu'il a choisi ce nom car la tête de l'insecte est juchée d'une touffe blanche, rappelant la coupe de cheveux du républicain, mais surtout pour attirer l'attention du public sur le besoin de protéger les habitats des espèces vivantes aux États-Unis. Vous pouvez retrouver les drôles de photos et la coiffure de néopalpate Donald Trumpy sur notre page Facebook.